Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 2001 et issu de cours donnés à Sciences Po. Cours familier de philosophie politique est un essai de philosophie politique consacré aux formes qui organisent la vie collective moderne. Pierre Manan y propose moins un manuel chronologique des doctrines qu'un tableau raisonné du monde contemporain. Son point de départ est volontairement ambitieux, comprendre la démocratie, la nation, le droit, la religion, le commerce et les totalitarismes, afin de mieux situer le citoyen dans son époque. La thèse directrice conteste l'idée selon laquelle la politique serait un obstacle à une humanité enfin réconciliée par la morale, le droit ou les droits de l'homme. Pour Manan, la médiation politique demeure au contraire une condition concrète de la liberté, de l'action commune et de la reconnaissance réciproque. Le livre combine réflexion conceptuelle, histoire européenne et examen des tensions du XXe siècle. Son style de cours privilégie des chapitres thématiques relativement brefs, mais il défend une perspective nette, attachée à la permanence de la question politique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la démocratie conçue comme organisation des séparations. Mann présente la démocratie moderne non comme une simple promesse de souveraineté populaire ou d'égalité, mais comme un ordre qui institue et règle des séparations. La séparation des pouvoirs limite la concentration de l'autorité. La distinction entre représentant et représenté rend possible un gouvernement dans des sociétés étendues. La division du travail organise l'économie moderne, tandis que la séparation de Église et de État redéfinit la place de la religion dans la vie publique. Cette idée permet de comprendre que la liberté démocratique ne résulte pas d'une suppression générale des différences, des institutions ou des conflits. Elle dépend au contraire de frontières reconnues, de rôles distincts et de procédures capables de relier des activités hétérogènes. Mann insiste ainsi sur un paradoxe décisif, une société qui poursuit l'égalité doit aussi préserver des différenciations sans lesquelles elle perdrait sa capacité d'action collective. La distinction entre la rigueur propre à la science et l'imprévisibilité de l'action humaine illustre également ce problème. On ne gouverne pas des personnes comme on démontre une proposition. La démocratie doit donc accueillir la pluralité des jugements, les désaccords et les initiatives. Au lieu de prétendre dissoudre toute médiation dans une administration rationnelle du social, cette approche donne un critère pour examiner les institutions, elles valent par leur aptitude à rendre compatibles liberté individuelle, décision commune et responsabilité politique. Deuxièmement, la nation comme forme politique de la démocratie moderne, le rapport entre démocratie et nation constitue le centre historique du livre. Mann ne réduit pas la nation à un sentiment culturel, ni à une survivance archaïque face à une mondialisation supposée inévitable. Il la considère comme la forme politique dans laquelle la démocratie européenne a trouvé un cadre de décision, de solidarité et de représentation. Une communauté nationale rend les citoyens capables de se reconnaître comme membres d'un même corps politique, tout en donnant une portée effective aux lois et aux choix collectifs. Cela ne signifie pas que la nation soit indemne de tensions ou de dérives. Les guerres européennes et les nationalismes montrent précisément que cette forme peut devenir conflictuelle lorsqu'elle absolutise son indépendance ou son identité. Mais Manan juge insuffisant le projet consistant à dépasser la nation sans préciser quelle forme politique pourrait assumer ses fonctions. Une démocratie qui se détache du cadre national risque de voir la décision se disperser entre normes juridiques, mécanismes économiques et institutions éloignées des citoyens. Le problème européen apparaît alors comme une difficulté de médiation politique et non comme un simple retard moral. Le lecteur est conduit à distinguer une critique légitime des passions nationalistes d'une négation de toute appartenance politique déterminée. La nation est étudiée comme un instrument historique imparfait, mais réel, de liberté commune et de responsabilité. Troisièmement, la grande illusion d'une humanité délivrée de la politique. Mann identifie dans la culture politique contemporaine une grande illusion croire que les hommes accéderaient à une vie plus juste si les formes politiques héritaient, particulièrement la nation, cédaient la place à la seule autorité du droit, de la morale ou de l'humanité abstraite. Cette aspiration peut sembler généreuse, car elle entend protéger chaque individu et réduire les conflits. Toutefois, elle néglige une question pratique qui délibère, décide, applique les règles et répond des conséquences de l'action. Les droits ne se réalisent pas spontanément. Ils exigent des institutions, des citoyens et un espace de responsabilité. En supprimant intellectuellement la politique, on ne supprime donc ni les désaccords, ni les rapports de force. On risque plutôt de les rendre moins visibles et moins contrôlables. La critique de Manan vise moins les exigences morales elles-mêmes que leur prétention à remplacer tout jugement politique. Il examine ainsi le triomphe moderne du langage des droits et le désir d'une démocratie pure, prétendument libérée des limites de la représentation, de la souveraineté et de la frontière. Son argument rappelle que la politique est le lieu où des êtres pluriels mettent en commun parole et acte, sans pouvoir éviter définitivement le conflit ni le choix. Le livre invite donc à évaluer les idéaux universels à partir des conditions institutionnelles qui leur donnent une existence effective, plutôt que de les opposer abstraitement à la vie politique. Quatrièmement, les guerres et les totalitarismes comme épreuve de l'intelligence politique. Le XXe siècle fournit à Manant un terrain majeur pour tester les catégories de la philosophie politique. Les guerres mondiales, le nazisme et le communisme ne sont pas traités comme de simples accidents historiques isolés. Ils obligent à interroger les formes de communauté, les ambitions idéologiques et les fragilités de la démocratie moderne. Comprendre ces catastrophes demande davantage que l'indignation morale rétrospective. Il faut examiner les conditions dans lesquelles une société peut confier son destin à une promesse de salut collectif, à un parti ou à une représentation absolue de l'histoire. Mann relie cet examen à la question de la nation, de l'égalité et de l'action politique, sans confondre les régimes démocratiques avec les entreprises totalitaires. La leçon centrale est que le refus de la politique réelle peut aussi prendre des formes destructrices. Le totalitarisme prétend en effet abolir les divisions, les intérêts concurrents et les médiations institutionnelles au profit d'une unité intégrale. Or, une telle unité exige la suppression du pluralisme et transforme la vie publique en instrument d'une doctrine. Cette perspective éclaire aussi la place accordée aux conflits internationaux. La paix ne peut reposer uniquement sur des proclamations universelles, mais doit être pensée à travers des formes de coexistence politique. Le livre donne ainsi au lecteur des repères pour éviter deux simplifications opposées, idéaliser les formes existantes ou croire que leur abolition suffit à produire une société humaine. En dernier lieu, une pédagogie philosophique qui relie concepts et situations contemporaines. La singularité formelle de cours familiers de philosophie politique tient à son origine pédagogique. Mann ne déroule pas une histoire scolaire des grands auteurs, même s'il mobilise des repères issus de la tradition de la philosophie politique moderne. Il part de questions qui demeurent actives. Que fait un État? Comment comprendre l'individu? Pourquoi l'égalité est-elle à la fois une exigence et une difficulté? Quel rôle joue le droit, le commerce ou la religion dans le monde moderne? Cette méthode donne une fonction précise aux concepts. Ils ne servent pas à classer abstraitement des doctrines, mais à rendre intelligibles des expériences collectives et des tensions institutionnelles. Les chapitres thématiques permettent au lecteur de progresser par problème, en reliant la démocratie à la nation, la liberté à l'égalité, ou encore la morale à la décision politique. Plusieurs lecteurs ont souligné la clarté et la vitalité de cette présentation, malgré la densité de certains développements. Il convient néanmoins de ne pas confondre accessibilité et neutralité. Le livre est un essai d'auteur, marqué par une défense assumée du politique et par des jugements critiques sur certaines tendances contemporaines. Cette orientation peut susciter le désaccord, notamment chez les lecteurs qui attendent une approche plus pluraliste des théories sociales. Elle constitue aussi sa valeur. Le texte apprend à identifier les présupposés politiques cachés derrière des notions devenues familières. En conclusion, Cours familier de philosophie politique s'adresse en premier lieu aux étudiants, aux candidats, aux concours et aux lecteurs qui souhaitent acquérir des repères solides sur la démocratie moderne, la nation et les crises politiques européennes. Il peut aussi intéresser des lecteurs déjà familiers de l'actualité, mais insatisfaits des commentaires qui isolent les événements de leur cadre institutionnel et historique. Le bénéfice intellectuel principal du livre est de réapprendre à poser des questions de forme politique. Quelle communauté décide? Par quelle médiation? Au nom de qui et sous quelles limites? Cette discipline du jugement aide à distinguer un idéal moral, une règle juridique et une capacité politique effective. Par rapport à de nombreuses introductions à la philosophie politique, l'ouvrage se distingue par son refus d'une exposée simplement encyclopédique. Il ne juxtapose pas les doctrines classiques et contemporaines. Il construit une lecture unifiée du monde moderne autour de la démocratie, de la nation et de la tentation de dépasser la politique. Cette cohérence rend le texte particulièrement stimulant, mais elle implique aussi une thèse forte que le lecteur doit discuter plutôt que recevoir passivement. Mann ne propose ni recette institutionnelle immédiate, ni neutralité académique totale. Il offre une manière exigeante de regarder les institutions, les droits, les appartenances collectives et les promesses universalistes. Pour qui cherche une introduction vivante ? Historiquement informé et intellectuellement situé, le livre demeure une porte d'entrée substantielle dans les problèmes durables de la philosophie politique. Si vous souhaitez soutenir Pierre Mann, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.